Merci Raphaël Godet, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. C'est une semaine de commémoration, une semaine dédiée à la mémoire des victimes des attentats. Des plaques ont été dévoilées devant Charlie Hebdo et l'hypercachère de la porte de Vincennes. Ce matin, une plaque à la mémoire de Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale tuée à Montrouge, sera dévoilée également par le chef de l'État. Les commémorations se poursuivront demain, dimanche, place de la République, avec un hommage aux victimes de janvier et du 13 novembre dernier. Parallèlement, des livres, une centaine consacrés aux attentats de janvier, viennent de paraître et dans les médias, et notamment à la télévision, des documentaires, des témoignages sont diffusés chaque jour. Quelle couverture médiatique des commémorations des attentats de janvier? On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos invités. Marie-France Etchegouin, bonjour.
Bonjour.
Grand reporter, vous êtes co-auteur avec Marie-Amélie Lombard-Latune, Dorothée Moisan et Thierry Lévesque du livre « Et soudain, il ne riait plus » aux éditions Les Arènes. Olivier Ranson, bonjour.
Bonjour.
Dessinateur du journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Bruno Dive est avec nous également, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste au quotidien Sud-Ouest, vous venez de publier chez Plon, Au cœur du pouvoir, l'exécutif face aux attentats, un livre qui a donné lieu à un documentaire diffusé lundi dernier sur France 3. Avec nous en duplex, Jean-Claude Guibaud, bonjour.
Bonjour.
Écrivain, journaliste, et vous publiez Le tourment de la guerre aux éditions L'Iconoclaste. Notre regard extérieur aujourd'hui, Jean-Marie Charon, sociologue des médias. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
L'actu à l'étranger, nous rejoindrons à Rome notre correspondante Mathilde Imberti. Le clin d'œil de la semaine signé Yacine Bouzard. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard, avec aux manettes aujourd'hui Jacques Hubert. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous, sur France Culture et dans le secret des sources.
Pour la première fois en France, un journal est décimé par une attaque terroriste.
C'est une date évidemment qui a marqué le basculement de la France dans une période noire, celle du terrorisme djihadiste.
Pas un journal ordinaire, un symbole de liberté d'expression menacé depuis longtemps.
Le 7 janvier 2015, en fin de matinée, les frères Kouachi s'attaquaient à la rédaction de Charlie Hebdo.
N'ayons pas peur d'être journalistes. N'ayons pas peur d'être policiers, n'ayons pas peur d'être juifs, n'ayons pas peur d'être citoyens. Nous sommes tous aujourd'hui, Charlie.
12 personnes ont été abattues, dont les icônes Cabu, Charb ou Volinsky.
J'appelle tous les Françaises et les Français à se lever ensemble pour porter ces valeurs de démocratie, de liberté, de pluralisme auxquelles nous sommes tous attachés.
Le secret des sources.
Voilà extrait de reportage de déclaration politique diffusé tout au long de cette semaine de commémoration. Marie-France Etchegouin, votre livre « Et soudain, il ne riait plus », c'est d'abord une enquête de journaliste, une enquête minutieuse avec beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations, des détails qui sont importants puisqu'ils nous aident à comprendre la vie des personnes, des victimes, leur joie de vivre, notamment pour certains, notamment de Frédéric Boisseau. C'est la première victime de l'horreur qui va durer 3 jours et votre livre débute avec son histoire et celle de son collègue et ami Jérémy Gans.
Oui, on a commencé ce récit par Frédéric Boisseau qui est l'homme que le destin et le hasard va placer sur la route des Kouachi. Il va travailler dans l'immeuble où est le siège de Charlie Hebdo. Il ne sait pas que le journal a son siège là. Il a sûrement jamais lu Charlie Hebdo. Et voilà, les Kouachi vont lui tirer dessus sans raison. Il est agent de la maintenance à la Sodexo. Ils sont 3. Lui, il est très baraqué. Il fait du sport. Il d'ailleurs dans son village. Et il porte toujours un blouson. Donc, est-ce qu'on l'a pris pour un vigile? Ou est-ce que simplement, voilà, les Kouachi avaient besoin de s'entraîner, déjà d'imposer un rapport de force, il lui tire dessus, il meurt. Et on est encore, ce qui nous paraissait intéressant, pourquoi on a pris l'histoire de Frédéric Boisseau, c'est que en ce mois de janvier, on est encore peut-être dans l'illusion pour beaucoup de Français, souvent une illusion sincère, et parfois c'est aussi plein d'arrière-pensées, que finalement les djihadistes ne vont tuer que ceux, quelque part, qui l'ont un peu cherché, qui l'ont mérité, soit à cause de ce qu'ils font, donc des caricatures, ou à cause de ce qu'ils sont, ils sont juifs. Et puis, Jérémy Gans, qui est l'autre employé de la Sodexo, et qui va voir son camarade mourir dans ses bras, il dira d'ailleurs, Frédéric est le premier mort, et pourtant il avait provoqué personne. Et c'est le cri du cœur, le cri du chagrin. Et en novembre, on va le rappeler, Jérémy Gans, et il va nous dire, il y a autant de morts que dans un avion qui tombe, et cette fois-ci, personne n'était ciblé. Et là, déjà en janvier, on avait basculé dans l'ère du terrorisme de masse, mais tout le monde n'avait pas forcément compris. Et le 13 novembre, on va le comprendre. C'est pour ça qu'on a démarré sur Frédéric Boisseau.
Alors la tuerie, vous nous racontez tous les épisodes, la tuerie, comment il rentre, une tuerie qui prend fin à 11h35. Et vous notez, Marie-France Etchegoin, le calme des assassins lorsqu'ils ressortent de l'immeuble. Un peu d'ailleurs comme Amédi Coulibaly dans l'épicerie hyper cachère de la porte de Vincennes. Ce calme a frappé les otages et les témoins, les gens qui les ont croisés.
Tous parlent, même certains parlent de leur courtoisie, parfois, enfin d'une absence totale d'affect. Et d'ailleurs, ce sont les frères jumeaux aussi des attentats de novembre. Hein. Beaucoup de témoins seront aussi frappés par cette absence d'humanité totale. On en a reconstitué en fait minute par minute, avec à la fois les témoignages des acteurs, ceux qui sont en marge ou ceux qui sont au cœur de l'action. Et c'est toujours très intéressant parce que ça fait ressurgir une vérité, vraiment une force du récit quand on revoit tous ces gens-là. Et souvent, il y a des choses dont ils se souviennent plus de temps après, pas dans l'immédiat. Enfin bon, et on arrive à reconstituer quelque chose d'absolument impressionnant souvent. Et par exemple, et on a aussi évidemment des milliers de pièces du dossier d'instruction avec des interrogatoires, mais aussi des enregistrements. Et par exemple, Coulibaly, quand il rentre dans l'hypercachère, il est enregistré par la caméra. Et là, c'est plein d'enseignements. On comprend tout. Il arrive, d'abord, il tire sur un jeune employé, Johan. Là aussi, absolument, évidemment, il n'est pas menacé, mais il l'abat immédiatement.
Je voulais marquer mon entrée.
Il fallait bien que je fasse mon entrée en scène. Ensuite, il voit quelqu'un dans les rayons. Il lui dit, comment tu t'appelles? Philippe, comment? Braham, non-juif, il le tue. Il demande à une caissière de fermer le rideau, et puis là, il y a un client qui veut arriver pour acheter du pain avant la fermeture. On lui dit non, ne rentrez pas, il rentre pas, Phil le tue. Et puis les otages lui disent, mais qu'est-ce qu'ils sont terrorisés? Ils disent, mais qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous voulez? Bah quoi? Vous n'avez pas regardé l'actualité? Comment ça? Bah quoi? Vous êtes juif, non? Bah c'est pour ça que je suis là. Voilà, donc voilà, c'est ça Coulibaly. Et ça va durer comme ça pendant 4 heures. Et on reconstitue en fait ce huis clos à l'intérieur. Et on voit bien, évidemment, la personnalité de Coulibaly aussi à travers tout ça.
Qui montre un visage calme, parfois cool, vous disent des rescapés, mais aussi sadique.
Et c'est complètement sadique, et jouant avec ses otages, leur demandant leur religion, leur nationalité, et puis à un moment donné, tiens, on va pique-niquer, faites-moi un sandwich avec de la dinde, c'est sans porc, de la mayonnaise. Ah bah lui, vous voulez que je l'abatte, dit-il en parlant d'un des jeunes hommes qui est blessé et qui est en train d'agoniser. Voilà, c'est absolument terrifiant.
Alors il y a une autre dimension importante et nouvelle lors de ces attentats, que vous nous racontez également en référence dans le livre, c'est le rôle des réseaux sociaux, et l'information du massacre se répand à une vitesse incroyable. Il y a des films faits par des voisins des lieux de l'attentat, des passantes qui veulent photographier Ahmed Merabet alors que les Kouachis viennent de lui tirer dessus. Et là, on ne peut rien faire contre ça.
C'est la première fois, je pense, qu'une crise de cette ampleur est suivie aussi directement par les chaînes d'infos continues, par les réseaux sociaux. Et alors, on a beaucoup parlé de BFM et des chaînes de télévision, mais c'est dès le début. Ça aussi, en reconstituant les faits, on se rend compte qu'à Charlie Hebdo, justement, Jérémy Gans, qui voit son camarade mourir dans ses bras, il voit quelqu'un qui arrive et qui veut filmer, qui est au-dessus avec son smartphone, qui est au-dessus des pompiers qui sont en train de le réanimer. Ensuite, et à chaque étape, il y aura toujours un passant, il y a toujours un voisin, il y a toujours quelqu'un. Le premier réflexe, c'est de filmer, non seulement de filmer, mais aussi de mettre la vidéo sur les réseaux sociaux. Et après, évidemment, tout est suivi en direct, minute par minute, avec la presse qui veut évidemment informer au plus vite. Souvent, d'ailleurs, les réseaux sociaux vont annoncer le massacre avant même que les familles des victimes ne soient au courant. Ils vont l'apprendre par des amis qui l'ont entendu, qui ont vu une alerte iPhone. Ensuite, il va y avoir évidemment tous ces épisodes absolument incroyables où les Kouachi et aussi Koulibaly vont appeler eux-mêmes BFM. Ça fait partie de leur stratégie. Ils ont eux-mêmes intégré ça dans leur stratégie de terreur.
Olivier Ranson, dessinateur du Parisien aujourd'hui en France, on peut demander à la presse plus de prudence, plus de discernement.
Ça, on l'avait vu.
Pas aux réseaux sociaux ni Internet.
Je me souviens de Toulouse, où on suivait toute la nuit sur BFM, et je voyais bien qu'on avait, les journalistes n'avaient rien à dire, ils étaient tenus à l'écart, mais ils essayaient de meubler. On a à la fois le public qui est intéressé, tous les spectateurs qui veulent de l'information, les journalistes qui sont là entre le marteau et l'enclume. Il est évident que la police va pas leur donner d'informations au fur et à mesure, mais qui sont obligés, eux, de meubler et de parler. Bon, bien sûr, ça donne lieu à des dérapages, et tout ce qui se passe, c'est dans l'émotion. Là, tout à l'heure, vous parliez des gens qui filment, mais à la fois, on veut avoir les informations au plus vite. Moi, je me souviens d'avoir entendu l'attentat de Charlie Hebdo dans mon bureau. Et ça avait commencé sur les radios par tir d'armes automatiques. Je pensais à un hold-up. Puis après, du côté de Charlie, je pensais juste à une sorte de crise comme ça. Puis au fur et à mesure, on déclinait. Mais on était avide d'un maximum d'informations, ce qui est bien normal. Mais on est là, et peu à peu, on veut à la fois avoir des informations, et on a des gens qui se retranchent, qui au bout d'un moment sont là, filment les choses, et oublient que c'est une vie qui a été prise, qui a été ôtée. On est spectateur de ce qui nous arrive. Et ça, c'est pas normal. Je rappelle que Charlie Hebdo, comme l'hypercachère, ça nous implique tous. Et on doit pas le regarder comme un spectacle. On doit se rendre compte que, bah oui, c'est la guerre, c'est le terrorisme qui nous a déclaré
la guerre. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et en même temps, je pense que cette émotion collective nationale et internationale, elle a pu aussi avoir lieu. Parce que il y a eu cet écho numérique, on va dire, et médiatique.
Non, bien évidemment, oui.
Nous considérons, avec le président de la République, qu'il faut être présent dans les médias de manière continue, parce que les Français ont besoin d'explications. Il faut que ceux qui ont en charge la responsabilité du pays donnent des éléments, cherchent à faire comprendre à l'opinion ce qui est en train de se passer.
Ils ont tout de suite compris comment un bénéfice politique pouvait être retiré de ces événements. Puisque dans les premières heures, tout ce qui concerne l'agenda politique, ce qu'a fait le président, ce qu'a fait le premier ministre, ça c'est abondamment relayé par les conseillers qui ont tout de suite compris que cette situation de crise terroriste intense, eh bien, rhabillait l'exécutif d'un costume régalien qu'il avait finalement eu beaucoup de mal à endosser dans les mois précédents et depuis le début du quinquennat.
Extrait de votre documentaire, Bruno Dive, avec Antoine Witkin, et qui a donné lieu à votre livre, Au cœur du pouvoir. Alors Bruno Dive, c'est l'un des aspects que montre votre livre et le documentaire. Le pouvoir politique se demande très rapidement comment accompagner ou apparaître durant ces trois jours d'horreur. Est-ce qu'il s'agit, comme le dit Manuel Valls, d'expliquer ce qui se passe, ou bien, comme on vient de l'entendre avec David Revaud-Allonne, qu'il y a peut-être des arrière-pensées immédiates et que le pouvoir a déjà en tête un bénéfice politique dont il pourrait tirer profit?
Il dirait qu'il y a les deux, parce qu'ils ont besoin d'une part de communiquer pour... il leur faut contrôler l'information, on vient de le dire, ça part un peu dans tous les sens, les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue qui font leur travail, mais qui ont besoin de nourriture, si je puis dire, et il faut alimenter et il faut pour cela contrôler. Et donc ils décident très vite de communiquer, le pouvoir exécutif décide très vite de communiquer, mais pour maîtriser sa communication, il n'y aura que trois personnes qui parlent, le président de la République dans des allocutions solennelles, le Premier ministre sur certaines interventions, dans certaines interventions médiatiques, et le ministre de l'Intérieur, en général, plutôt sur le terrain. Et puis, il y a le procureur de la République, par ailleurs. Les autres ministres ne sont pas autorisés à s'exprimer. Et de fait, il n'y aura pas, heureusement, de couac pendant cette séquence. Alors, ce qui n'empêche pas le pouvoir exécutif d'avoir tout de suite vu le bénéfice, enfin, en tout cas, l'occasion qui se présentait pour eux de se remettre en selle politiquement s'ils savaient bien gérer cette séquence. Il faut se souvenir que François Hollande est alors au plus bas dans les sondages. Il est dans une situation quasiment désespérée. Il a l'occasion d'enfiler ce costume présidentiel. Il ne va pas rater cette occasion en étant très présent, en étant sur tous les fronts. Il est dans la compassion avec les victimes, dans la communication auprès des Français, dans la décision, parce que tout est centralisé au ministère de l'Intérieur, puis bientôt à l'Élysée, et ça va jusqu'à la décision de l'assaut contre l'hypercachère.
Donc qui n'existait peut-être pas avant entre Hollande, Valls et Cazeneuve, là, à ce moment-là.
Ça a été objectivement très fusionnel. Je sais que nous, les journalistes politiques, on aime bien voir toujours des rivalités. Oui. En l'occurrence, quand Bernard Cazeneuve dit « on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre », je crois que c'est assez vrai. Alors, il faut voir que ces hommes se connaissaient très bien, ils se connaissent depuis longtemps. Hollande et Cazeneuve, Cazeneuve et Valls, Hollande et Valls. Il y avait tout de même un peu de tirage les mois précédents entre François Hollande et Manuel Valls. Et le Premier ministre, Manuel Valls, nous a dit... Après, en parlant de la séquence qui suit le succès de l'assaut sur l'hypercachère, il s'éloigne un peu sur le balcon du bureau présidentiel qui domine le parc de l'Élysée. Il n'a pas voulu nous dire ce que les deux hommes s'étaient dit, mais ce qui est certain, c'est que Manuel Valls nous dit « cet épisode a changé ma relation avec le président ». Et il y a eu de nouveau, depuis, des tensions, des fritures, mais de fait, on observe que depuis ce temps-là, il n'y a plus aucune velléité de candidature à l'élection présidentielle, par exemple, de Manuel Valls, en tout cas pour la prochaine élection.
Pour l'instant.
Pour l'instant, pour la prochaine élection. Oui.
Marie-France Tchégouin, vous vouliez...
C'est vrai que Cazeneuve et Valls ne sont en concurrence pour rien. Mais nous aussi, enfin...
Ils sont même d'accord sur tout.
Voilà, ils
sont sur la même ligne politique, sécuritaire.
Contrairement à Hollande et Valls, oui. Où il peut y avoir une concurrence politique. C'est vrai qu'il y a eu chez chacun, enfin en particulier Valls et Hollande, qui connaissaient personnellement plusieurs des victimes, ils ont été complètement bouleversés, comme tout un chacun, et ils ont vu immédiatement, comme dit Valls, il le répète tout le temps pendant ces journées-là, la France a été touchée au cœur. Ils ont compris que, qu'on soit lecteur de Charlie ou pas, il s'est passé quelque chose de tellement inouï, inédit. On a tué des dessinateurs, on a tué des types qui dessinent, quoi. C'est dingue, on a tué Cabu. Il y a personne de plus gentil que Cabu. Oui. Et Cabu, c'est transgénérationnel. C'est la guerre d'Algérie, c'est 68, c'est Récré à deux.
Les émissions pour enfants, voilà.
Voilà, donc là, ils ont compris. Et qu'à travers ça, la France... qui on était encore avec Houellebecq sous mission, on était avec Zemmour, on était avec tout ça dans le déclinisme.
Le matin même sur les radios.
Voilà, le matin même, Houellebecq est sur France Inter.
On est nul, les Allemands sont 10 fois...
La dernière couverture de Charlie, Houellebecq, voilà. Dessiné par Luz.
Donc on était là...
Et en 2022, ouais. Chez Ramadan.
On était là-dedans, et tout d'un coup, on se rend compte qu'on a quelque chose à défendre. On a quelque chose qui est précieux, on a une conception de la laïcité qui est absolument unique. Les anglo-saxons dont on vante la liberté de la presse, ça n'a absolument rien à voir. Ils n'ont pas osé montrer les caricatures. On a quelque chose qui est unique, qui est à nous et qu'on doit défendre. Et ça, je crois qu'ils l'ont évidemment compris au-delà de leur stature aussi qu'ils ont sculptée pendant ces 3 jours, personnelle.
Olivier Ransom, Bruno Dive, d'abord.
Il y a aussi l'occasion de montrer que, surtout pour François Hollande, qui sont capables de prendre des décisions. Vous savez que le procès qui est intenté depuis son élection à François Hollande, c'est qu'il ne s'est pas décidé. Et là, les Français vont le voir à l'œuvre. Il l'avait déjà montré au Mali, mais c'était un peu loin, ça n'avait pas toujours été bien perçu. Et là, on le voit capable de prendre des décisions. Ça change considérablement l'image présidentielle.
Olivier Ransom.
Oui, je voulais rajouter sur ce que dit Bruno Dive. C'est on a quand même élu un président pour s'occuper aussi de ça. Je vous rappelle que Mélenchon avait dit au tout début... juste pour faire une phrase, on a élu un capitaine de pédalo. Ben, on voit qu'il y a une tempête, et je rappelle que qu'on ait voté pour lui ou qu'on n'ait pas voté pour lui, on attendait d'un président qui soit à la barre dans ce genre de situation et qui soit en phase avec la nation. Ça aurait pu être n'importe quel autre président, on lui aurait demandé la même chose.
Ah, on va parler de Charlie Hebdo et de la couverture d'un an après. La dernière couverture de Charlie Hebdo, qui représente un dieu, une sorte de dieu universel, s'agit-il d'un blasphème selon vous ?
Bon, déjà, ce dieu dans une de Charlie Hebdo est de type assez caucasien. Est-ce que ce dieu-là n'est pas un dieu finalement très consensuel ?
Vous êtes en train de dire finalement que cette couverture était une couverture un peu molle.
Oui, alors je dis ça et en même temps c'est très dur de dire ça quand on parle d'une rédaction qui a été décimée. Enfin, peut-être que j'aurais même moi-même fait une couverture encore beaucoup plus molle et ça reste très courageux.
Par peur ?
Oui, je pense évidemment. Mais je pense qu'il n'y a pas que de la peur. Je pense qu'il y a aussi une sorte de... Oui, oui.
Et vous, Régis Debray, qu'est-ce que vous auriez fait comme couverture ?
Cette couverture est très pépère, elle est plutôt sympathique, traditionnaliste, très 1900. Elle est gauloise et assez convenue.
Voilà, extrait des Matins de France Culture. Guillaume Erner recevait Anastasia Colosimo, enseignante à Sciences Po et l'écrivain Régis Debray. Pas convaincus les uns et les autres par la une de Charlie Hebdo un an après. L'assassin court toujours, une couverture molle, c'est ce que a dit également la journaliste de Charlie, Zineb El Razoui, menacée de mort également. Olivier Ranson, dessinateur du Parisien, qu'en pensez-vous de
Alors moi, Charlie je vais défendre la couverture au nom de l'œcuménisme. Je rappelle à tous nos amis musulmans, juifs et chrétiens que nous avons le même Dieu et que c'est le nôtre et qu'il a une Kalachnikov, ce qui montre que les musulmans sont pas exclus. Mais moi, cette couverture, elle me réjouit, elle me choque pas. Il y a quand même quelque chose. L'intégrisme, c'est à la base une perception ou une volonté d'imposer un Dieu à des gens qui n'y croient pas ou s'en désintéressent. Donc, tout le monde est concerné. Et tous ceux qui ont dit que, oui, mais ils n'ont pas voulu cibler Mahomet, sont ceux qui avaient dit avant, ouais, non, mais arrêtez la provocation, vous mettez Mahomet tout le temps à toutes les sauces, vous êtes islamophobe. Donc, voilà, c'est une couverture qui attaque la religion en général. Tout le monde en prend pour son grade.
Bruno Dive, la couverture, ouais, vous ?
Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'étais très choqué par cette couverture parce que, justement, je ne vois pas pourquoi on attaque toutes les religions dans cette affaire. Je ne vois pas ce que les chrétiens et les juifs viennent faire dans cette... On a entendu Allah Akbar quand même crier. Alors, il ne faut pas incriminer, bien sûr, l'ensemble des musulmans. Mais on ne peut pas dire qu'il ne faut pas d'amalgame entre les intégristes, les terroristes islamistes et le reste des musulmans qui sont dans leur grande majorité pacifiques. Et après, faire un amalgame entre ceux-là et les juifs, les chrétiens. Je trouve que c'est quelque chose... Ils ont été très courageux, Charlie Hebdo, ils l'ont payé cher. Là, je n'ai pas trouvé cette couverture très courageuse. C'est presque une victoire posthume des terroristes pour moi.
Moi, je la trouve très courageuse et je soutiens à fond. De toute façon, après tout ce qu'ils ont vécu, elle est peut-être moins géniale que celle qu'avait fait Luz le 14 janvier. Oui, tout est pardonné. Bon, je pense que le bon Dieu est assez grand pour se défendre tout seul. Que évidemment, l'idée de Dieu, c'est forcément une idée qui peut conduire à des extrémismes, quelles que soient les religions. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu signifier. Et ce qui n'interdit pas d'ailleurs de s'interroger aussi sur l'islam en particulier. Et ça, ils l'ont beaucoup fait et ils continuent à le faire.
Olivier Ranson.
Alors, contre l'intégrisme, je voudrais dire quelque chose. C'est, je travaille dans la presse juive. Ça fait des années que je fais des dessins aussi satiriques sur l'humour juif. Et en 2007, au moment des premières caricatures, où je faisais déjà des dessins qui se moquaient de ma religion à moi, brusquement, mes coreligionnaires se sont rendus compte que on ne voulait pas ressembler aux intégristes musulmans. Et là, tous les mauvais coucheurs, tous les chieurs qui envoyaient des messages, qui se plaignaient que je déconnais sur la Torah, se sont calmés en se disant « on ne veut pas ça ». Donc il y a quand même un fond d'intégrisme partout, chez nous, chez vous, chez les musulmans.
Bien sûr.
Et ce genre de choses couvre tout le truc. Ça s'est pas fait parce que chez les juifs, on n'est pas assez nombreux pour pouvoir faire de l'intégrisme imposé aux autres. Non, je plaisante, mais l'intégrisme en soi est déjà un mal. Et c'est celui-là, c'est pas les musulmans. Donc il est normal que ce soit tous les dieux qui prennent dans la gueule.
Tout au long de cette année, Olivier Ranson, vis-à-vis de Charlie Hebdo, est-ce qu'on vous a demandé de vous rapprocher d'eux ? Est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher d'eux pour les aider, pour rebâtir le journal ?
Alors au début, on m'avait demandé ça, mais de mon journal. Et j'ai dit, je veux pas y aller, sauf s'il y a mention du Parisien, parce que je veux pas prendre la place des autres. Mais j'étais un peu indécis, en disant, j'y vais pas, est-ce que je suis utile ? Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à entendre les gens de Charlie dire, les dessinateurs osent pas venir, ils ont la trouille. Et ça, ça m'a énervé, et... Comme je le dis, je le cache pas, moi dans ma famille, il y a eu des attentats, il y a eu des souffrances comme ça, et je supporterai pas.
Vous avez perdu un membre de votre famille.
J'ai perdu le frère de ma mère en 82 rue des Rosiers, j'ai mon frère dont les enfants étaient élèves à Osaratora à Toulouse, et qui était sur place. Et pour le gag, ma mère fréquente Hyper Cacher, mais elle n'y était pas cette semaine-là. Ouais, quelqu'un m'a dit « je porte la poisse ». Mais bon.
Là, vous pouvez en vouloir au bon Dieu, là.
Mais je veux dire, je supporte pas qu'on dise que j'ai la trouille. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit « je vais aller à Charlie Hebdo ». Puis je vois qu'ils virent des gens aussi, qui sont dédaigneux avec des collaborateurs qu'ils ont.
Il y a pas mal de dissensions internes, effectivement.
Oui, il y a des dissensions internes. Et je me suis dit, je vais pas quand ils virent les trucs. Mais je suis pas content de ce qui se passe à Charlie. Et je suis surtout pas content qu'ils disent que les dessinateurs ont la trouille. J'en connais plein qui veulent aller et qui se retrouvent face à certaines dessinatrices et dessinateurs de Charlie Hebdo qui disent, non, c'est pas bon ce que tu fais. Mais l'équipe de Charlie Hebdo, avec tout le respect que je lui dois, elle n'est grande que par la souffrance. Elle l'a pas programmée. Elle n'a pas de mérite à avoir vécu ça et elle n'a pas à maintenant devenir académicien du mauvais goût comme un, ou fin de la transgression.
Le secret des sources sur France Culture avec nos invités Olivier Ranson, Bruno Dive, Marie-France Etchegouin et Jean-Claude Guillebeau qu'on va retrouver dans un instant. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling. The street tonight, dirty old town, dirty old town. I heard a siren from the docks, saw a train set the night on fire. The smoky wind, dirty old town, dirty old town.
Dirty old town. Les Pogues, une reprise du musicien américain Steve Earle. La musique avait été jouée lors des obsèques de Charb. Jean-Claude Guillebeau, avec nous par téléphone. Jean-Claude Guillebeau, vous venez de publier Le tourment de la guerre. Alors ce mot « guerre » a été employé plusieurs fois après les attentats de novembre dernier. Il était employé par François Hollande, Nous sommes en guerre, Manuel Valls également, mais aussi Nicolas Sarkozy et Alain Juppé dans son livre « L'état fort » qui vient de paraître. Et vous, Jean-Claude Guillebeau, donc vous publiez aux éditions Iconoclaste Le tourment de la guerre. Jean-Claude Guillebeau, vous nous dites... qu'il faut réapprendre à penser la guerre aujourd'hui ?
D'abord, je précise, c'est un livre sur lequel je travaillais depuis 6 ans, donc qui n'a rien à voir avec les événements.
Mais qui tombe...
Et d'ailleurs, c'est une surprise pour moi qu'il soit tout d'un coup mêlé à un événement aussi tragique. Vous savez, je ne veux pas et je ne peux pas parler de ce qui s'est passé sans pudeur, sans respect et sans modération. Il y a trop de douleur, il y a trop de peine... chez nous et chez nos amis, pour qu'on en parle un peu à tort et à travers. Pour ce qui me concerne, j'ai perdu dans cette affaire 2 amis très chers, surtout l'un, Cabu, avec qui j'étais, vraiment c'était mon meilleur ami depuis plus de 30 ans, et j'avais énormément d'amitié pour Bernard Maris. Donc je partage et je comprends cette peur et ce respect. Pour autant, je vais introduire un peu de dissensus, si vous me le permettez. Je ne pense pas que ce respect qu'on doit à tous ces gens-là doive nous interdire d'être critiques. Ça serait d'ailleurs faire une injure à Charlie Hebdo que d'oublier notre esprit critique. Mm-hmm. Pour ce qui me concerne, avec Cabu, pendant 30 ans, nous avons souvent parlé de Charlie Hebdo. Je lui ai souvent dit que je me battrais tant qu'il faudrait et s'il fallait un jour pour que Charlie Hebdo existe. mais que je lui demandais de ne pas m'obliger à aimer les dessins que lui-même faisait. Et ça faisait entre nous beaucoup d'éclats de rire. Aujourd'hui, vous savez, pour ce qui concerne la célébration, depuis une semaine, je vais vous dire comme je pense qu'on en fait trop. Mmh. Je pense qu'on en fait trop de manière maladroite. Je pense que les Français ont fait preuve de plus de sang-froid que leurs hommes politiques. Ce qu'espéraient, surtout après le 13 novembre, ce qu'espéraient les terroristes, les salopards qui ont tué 130 personnes, c'est que ça déclenche en France un mouvement de réaction anti-musulman et que ça déclenche des ratonnades. C'était leur but principal. Or, il y a bien eu quelques excès verbaux, quelques cocktails Molotov ici ou là, mais les Français n'ont pas marché dans cette combine. Ils ont fait preuve de sang-froid. Dans le même temps, je vous rappelle tout de même que j'ai souvent été heurté par la manière dont nos représentants, je pense notamment à Manuel Valls et à François Hollande, en ont rajouté dans la terreur, dans la dramatisation, etc. Rappelez-vous quand même Manuel Valls qui disait, sans réfléchir, qu'il y aurait peut-être une attaque chimique dans le métro de Paris, de manière tellement maladroite qu'il s'est cru obligé le lendemain de revenir sur ce qu'il avait dit. Tout ça me paraissait absurde parce que on aurait dit à certains moments que on faisait tout pour apeurer les Français alors même qu'il fallait les rassurer. Et vous savez, dans cette critique, je nous inclus, nous journalistes, et je m'inclus moi aussi, quand je voyais dans les kiosques à journaux toutes ces couvertures d'hebdo ou de quotidien qui disaient « la Troisième Guerre mondiale est commencée », je me disais « mais c'est une sottise ». D'ailleurs, tous les 4 ou 5 ans, on nous dit « c'est la Troisième Guerre mondiale qui commence », mais ça doit faire maintenant la Cinquième ou la Sixième Guerre mondiale. Donc tout cela, évidemment, tout cela m'a choqué, tout cela m'a profondément heurté. Et je vais vous dire, vendredi matin, j'ai entendu sur France Inter un homme admirable de tranquillité, de courage et de lucidité, c'est le procureur de Paris, François Molins. Si les hommes politiques avaient eu cette sagesse, et François Molins, avec beaucoup de mesure et beaucoup de courage, nous a dit qu'il fallait probablement nous habituer à connaître plusieurs années de terrorisme. C'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions que nous en avons pour un an, pour deux ans, voire pour trois ans, des années pendant lesquelles il pourrait y avoir deux, trois attentats par an. Alors, que fera-t-on pour commémorer le 13 novembre, en novembre prochain? Vous comprenez bien que cet excès, comme ça, dans le débordement d'émotivité, il est tellement abusif que je crains, que je redoute que les Français y voient je ne sais quelle manœuvre politique.
Abusif et dangereux.
Pour paraître aussi engagé que Marine Le Pen. Et je suis gêné par ça. Pardonnez-moi si je m'échauffe un petit peu, mais c'est que je suis profondément touché par ce qui se passe de cette façon-là.
On l'a bien compris. Merci beaucoup, Jean-Claude Guibaud. Je rappelle votre livre aux éditions Iconoclaste, Le tourment de la guerre qui vient de paraître. Jean-Marie Charon, sociologue des médias, cette semaine dédiée aux victimes des attentats, vous notez lors de tous ces événements un paradoxe entre ces commémorations, où on parle beaucoup de liberté, et certains textes qui arrivent, qui pointent, qui pourraient justement restreindre ces libertés.
Oui, j'ai été frappé par cette espèce de paradoxe, ou de décalage, ou de contradiction, entre effectivement les hommages, notamment concernant effectivement les journalistes de Charlie Hebdo, la question de la liberté de l'information, une liberté de l'information d'ailleurs qui en général est traitée, enfin est abordée en termes extrêmement vagues, extrêmement abstraits. Et puis si on regarde l'année qui vient de s'écouler ou les quelques années qui viennent de s'écouler, eh bien les faits, les comportements des uns et des autres. Alors je voudrais effectivement pointer quelques plans. D'abord le plan politique et juridique. Je suis frappé par le fait que en 2012, lorsque la nouvelle équipe arrive, on nous dit sur la question du secret des sources, il faut enfin une vraie loi. Une loi qui garantisse vraiment le travail de l'enquêteur, parce qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'investigation, s'il n'y a pas un minimum, je dirais, de manière de cadrer cette question du secret des sources. Eh bien, cette loi, elle n'est même pas encore présentée au Parlement. Elle est donc pas votée. Et puis, il y a eu aussi cette accumulation de textes. Alors, c'est vrai qu'ils sont liés à un certain nombre à l'actualité dont on vient de parler. Les textes sur le terrorisme, les textes sur le renseignement. Mais ce qui est frappant, c'est qu'à chaque fois, eh bien, dans ces textes-là, c'est pas central, mais dans ces textes, on parle de la loi de 1881 sur la liberté de l'information, et à chaque fois pour en renier un petit bout. Hein. Et donc, là, il y a encore un sujet. Et puis, il y a eu aussi cette année, on en a moins parlé, c'est peut-être moins central, un peu ces crocs en jambes à l'égard de certains médias. Je pense par exemple au Fisc, hein, qui s'en prend à Arrêt sur Image et à Mediapart, qui réclame un retour de TVA, qui en plus en met en colle une bonne amende, de telle manière certainement à renforcer l'activité de ces sites. Et puis, je trouve qu'il y a eu une atmosphère au Parlement qui m'a quand même quelque peu troublé, y compris au moment des débats sur l'état d'urgence. Le fait de voir un certain nombre de députés, contrairement d'ailleurs à ce qu'avait annoncé le gouvernement, demander à ce qu'on applique les mesures de l'état d'urgence, y compris à la presse. Et puis, bon, il y a aussi, je dirais, alors au-delà, je dirais, de cette fameuse directive que je trouve très très inquiétante et sur laquelle on n'a pas beaucoup de visibilité, sur le secret des affaires, qui là aussi met en cause, je dirais, le travail de l'enquête. Alors, sur le plan économique aussi, on peut... Alors là, ça ne met pas directement en cause le gouvernement, mais c'est vrai qu'on est dans une période très particulière, une dégradation des modèles économiques, on est dans une période... où il y a moins de journalistes, hein. Je le disais dans une récente émission, 1500 journalistes de moins depuis 2009, pardon. Et puis, pourtant, plus de support. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en début de mois, là, on a eu le prix des journaux qui a flambé plus de 10%. Et là, ma réflexion tout de suite, c'est de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas en train de rejeter un peu à l'extérieur de la lecture de la presse de toute une partie des Français? Et puis, il y a aussi ce fait qu'on voit ces grands géants sur l'Internet qui se sont imposés entre les médias et leur public et qui, de plus en plus, dictent leurs lois.
Pour revenir sur ce que disait Jean-Claude Guibaud, la saturation, c'est vrai qu'on a été un peu monosujet hein, cette semaine entre les commémorations, les attentats, le terrorisme. Tout ça a pris toute la place médiatique et certains parlent de saturation. On l'a entendu, c'est ce que nous reproche aussi Jean-Claude Guibaud en s'incluant effectivement parmi les journalistes.
Oui, j'avais noté aussi cet éditorial de Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées qui revenait aussi là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on a... Je pense que c'est le propre de notre système d'information, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans un système d'information pléthorique, mais en même temps fragile. Et du coup, un système qui roule, je dirais, au carburant de la redondance, quoi. Et du coup, quand on regarde les jours qui viennent de s'écouler, eh bien, on a l'impression effectivement que Charlie a écrasé toute une partie de l'information. Par exemple, on a occulté la crise entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui a probablement beaucoup de conséquences. On a oublié ou on a pratiquement pas parler de l'assassinat de cette journaliste syrienne Rukia Hassan Mohamed qui était à Raqqa et qui a été assassinée par Daesh, où on n'a pas beaucoup parlé de l'effondrement des bourses en Chine, par exemple, qui sont des événements qui, en d'autres moments, auraient occupé beaucoup de place dans l'actualité.
Merci Jean-Marie Charon. Olivier Ranson fait le forcing.
Je suis d'accord avec Jean-Marie Charon sur le côté roboratif de ces commémorations, mais je veux rappeler par rapport à tous les éléments qu'il a donné, que l'élément, le sujet d'actualité qui s'était imposé avant Charlie, c'était la mort de Michel Delpech. On en a été aussi saturé. Donc c'est quand même aussi à la presse de parler d'autre chose. Et c'est pas les commémorations qui ont occulté le reste. C'est la demande de l'auditeur, du spectateur, du téléspectateur et du lecteur. Il faut que nous, on parle d'autre chose aussi.
Et il faut c'est que pas mauvais de se poser non plus et de prendre un peu de recul et de revenir sur des événements qu'on a
aussi
beaucoup
besoin
commentés.
De se réapproprier tous ces événements et aussi pour rebondir sur ce que disait Jean-Claude Guibaud. Je ne sais pas si le gouvernement en a trop fait. En tout cas, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il en a fait assez depuis le mois de janvier, quand on voit toutes les failles
Dans les faits, il n'y en a pas assez qu'il y a...
Les failles de notre système de surveillance et de notre système antiterroriste.
Merci, on terminera.
Jean-Claude Guibaud aussi, que Manuel Valls, dans notre documentaire et dans notre film, nous prévient bien qu'il va y avoir qu'il peut y avoir d'autres attentats qu'il faut s'habituer à vivre avec.
Et on terminera le débat sur les interventions de Marie-France Etcheguin, Bruno Dive et Olivier Ranson. On écoute le clin d'œil de Yacine Bouzard avec Gilbert Bécaud.
Trois jeunes djihadistes français appellent les musulmans de l'Hexagone à rejoindre la Syrie dans cette vidéo de propagande du groupe État islamique. L'un d'eux suggère, à défaut, de conduire des attaques en France.
Comment osez-vous travailler dans cette terre de mécréance ? Pour tous les ennemis de l'islam.
Jean Cabu, 76 ans. Georges Wolinski, 80 ans. Stéphane Charbonnier, 47 ans. Tignous, 57 ans. Philippe Honoré, 73 ans. Bernard Maris, 68 ans. Elsa Kaya, 54 ans. Franck Brinsolaro, 49 ans. Ahmed Mirabet, 42 ans. Frédéric Boisseau, 42 ans. Michel Renaud, 69 ans. Moustapha Ourad, 60 ans. François-Michel Sada, 63 ans. Johan Cohen, 20 ans. Yoav Attab, 22 ans. Philippe Braham, 45 ans. Clarisse Jean-Philippe, 26 ans.
J'adore dessiner, alors je vais continuer.
Voilà Yacine Bouzard, le clin d'œil de l'émission. L'actualité à l'étranger, en lien avec les commémorations en France, nous allons à Rome retrouver Mathilde Imberti. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
L'actualité chez vous cette semaine, c'est aussi Charlie, et notamment la couverture du numéro spécial un an après. Et le Vatican, Mathilde Imberti, a jugé la une de Charlie pénible.
Oui, cette une avec un dieu barbu armé d'une kalachnikov a été jugée non seulement pénible, mais malhonnête. Le Saint-Siège a exprimé sa position via l'Osservatore Romano, qui est le quotidien du Vatican. Cette caricature omet de rappeler que de nombreux dignitaires religieux ont condamné la violence au nom de la religion, regrette l'Osservatore dans son édition de mardi. Le pape, d'ailleurs, lui-même, à plusieurs reprises, a déclaré que utiliser Dieu pour justifier la haine est un véritable blasphème. Par ailleurs, pour le quotidien du Vatican, le choix de Charlie Hebdo montre le paradoxe d'un monde qui, à force de politiquement correct, devient ridicule, mais qui, dans le même temps, ne veut pas respecter la foi en Dieu de chaque croyant, quelle que soit sa religion. Alors, la réaction du Saint-Siège fait écho au tweet cinglant de la Conférence des évêques de France à propos de la une de Charlie Hebdo, la CEF qui écrit sur son fil Twitter « Nous ne commentons pas ce qui ne cherche qu'à provoquer ». Charlie Hebdo, au-delà de la presse du Vatican, était bien présent cette semaine dans les médias italiens, hypersensible aux événements qui ont secoué la France en 2015. Ainsi, dans la rétrospective de l'année 2015 assurée par l'hebdomadaire Panorama jeudi, les événements français figurent dans les toutes premières pages, avec en photo le drapeau tricolore brandi place de la République, et en chapeau les attentats ont accordé à la France une nouvelle position sur l'échiquier européen qu'elle devra mettre à profit en 2016.
Alors en Italie, Mathilde Imberti, 2016 démarre avec un projet de loi très polémique sur les unions civiles.
Oui, l'Italie s'écharpe déjà sur les unions civiles. C'est le terme choisi par le projet de loi qui sera discuté à la fin du mois au Sénat. Alors, ce n'est pas un mariage, mais la reconnaissance des unions gays avec la possibilité d'adopter l'enfant du conjoint homosexuel. La presse l'a rappelé via des cartes d'Europe tout à fait explicites cette semaine. L'Italie est l'un des derniers pays européens à n'accorder aucune reconnaissance légale aux couples gays. Alors, l'interview choc de la semaine était à lire mercredi dans le quotidien catholique L'Avvenire. Interview du ministre de l'Intérieur, Angelino Alfano, très opposé à ce projet. Pour lui, accepter l'adoption dans les couples gays conduira bientôt l'Italie à accepter les mères porteuses. Or, poursuit-il, le recours aux mères porteuses est un crime qui doit être puni au même titre que les crimes sexuels. Les opposants à ce projet de loi fourbissent leurs âmes en Italie. Il Corriere della Sera annonçait jeudi dans ses colonnes une grande manifestation dite Family Day. Ce sera dans les rues de Rome à la fin du mois, avec le soutien de l'Église catholique italienne. Et puis les retombées politiques de ce projet de loi pour Matteo Renzi, elles pourraient être positives. Ça, c'est la Repubblica qui l'analyse dans son édition de mardi. Si le projet de loi est adopté, le quotidien estime que ce sera une manière pour Renzi de séduire les électeurs les plus à gauche, sensibles à la question des droits. Ce sera capital pour lui et son parti, le Parti démocrate, dans la perspective des élections locales du mois de juin prochain en Italie.
Pour terminer, Mathilde Imberti, l'image de la semaine chez vous, c'est rouge.
Ouais, c'est rouge, du rouge, du rouge, du rouge. C'est la Bourse de Milan aux couleurs de Ferrari. C'était lundi, la célèbre société automobile qui a fait son entrée à la Bourse de Milan avec la gamme complète des modèles Ferrari exposés devant le bâtiment. Ferrari fait son entrée à la Bourse de Milan 2 mois et demi après son arrivée à Wall Street. Matteo Renzi avait fait le déplacement pour l'occasion. C'est d'ailleurs lui, hein, qui avait obtenu des dirigeants de Ferrari que le groupe soit coté également en Italie. Et tous les journaux, toutes les télés, les radios, de se faire l'écho de sa fierté. Ferrari montre à l'Italie que la mondialisation est notre meilleure chance, a déclaré le président du Conseil italien à la presse lundi. Les Italiens ne doivent pas avoir peur de descendre en piste. Quand nous le faisons, nous sommes les meilleurs du monde. Ah, du 100% Matteo Renzi, infatigable communicant.
Merci, merci Mathilde Inverti, merci à tous. L'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Marie-France Etchegouin, grand porteur, pour son livre écrit avec Marie-Amélie Lombard-Latune, Dorothée Moisan et Thierry Lévesque. Et soudain, il ne riait plus, aux éditions Les Arènes. Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest, auteur du livre qui vient également de paraître Au cœur du pouvoir chez Plon, livre qui a donné lieu à un documentaire avec Antoine Witkin, diffusé sur France 3 lundi dernier. Olivier Ranson était également avec nous, dessinateur du journal Le Parisien, aujourd'hui en France, et en duplex, Jean-Claude Guibaud, journaliste, écrivain, pour son livre Le Tourment de la guerre aux éditions L'Iconoclaste. Notre regard extérieur aujourd'hui, Jean-Marie Charon, sociologue, spécialiste des médias. Merci à Mathilde Lamberti que l'on vient d'entendre. Le clin d'œil de Yacine Bouzard. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr avec aux manettes aujourd'hui Jacques Hubert. Dans un instant, le journal de Raphaël Godet suivi de répliques. Comment vivre avec Alzheimer? Alain Finkielkraut reçoit Jean-Claude Amezen et Michel Malherbe. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique, bonne journée sur Culture. Pas convaincus les uns et les autres par la une de Charlie Hebdo un an après, l'assassin court toujours.
Alors moi je vais défendre la couverture au nom de l'œcuménisme. Je rappelle à tous nos amis musulmans, juifs et chrétiens que nous avons le même Dieu et que c'est le nôtre et qu'il a une Kalachnikov, ce qui montre que les musulmans ne sont pas exclus. Mais moi, cette couverture, elle me réjouit, elle me choque pas. Il y a quand même quelque chose. C'est une couverture qui attaque la religion en général. Tout le monde en prend pour son grade.
Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'étais très choqué par cette couverture parce que, justement, je ne vois pas pourquoi on attaque toutes les religions dans cette affaire. Je ne vois pas ce que les chrétiens et les juifs viennent faire dans cette affaire. Ils ont été très courageux, Charlie Hebdo, ils ont payé cher. Là, je n'ai pas trouvé cette couverture très courageuse. C'est presque une victoire posthume des terroristes pour moi.
Moi, je la trouve très courageuse et je soutiens à fond, de toute façon, après tout ce qu'ils ont vécu.